Il est 8h à Bogota, 9h à Port-au-Prince. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur RFI.
RFI Midi.
Anne Contner.
Et nous allons parler de l'actualité du continent américain durant la prochaine demi-heure. En Haïti d'abord, avec notre confrère, directeur de l'agence Alter Press. Haïti, où les gangs sèment toujours la terreur, bloquent le terminal pétrolier de la capitale. Haïti, où l'on attend toujours une date pour l'installation du conseil présidentiel de transition. Nous irons également au Pérou. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent après un nouvel assassinat de militants. Et puis nous irons à Bogota, voir comment les habitants s'adaptent aux coupures d'eau. Enfin, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez de la Guadeloupe tout à l'heure. La Guadeloupe où le couvre-feu est entré en vigueur hier soir à Pointe-à-Pitre.
Les moins de 18 ans non accompagnés ont été priés de rester chez eux entre 21h et 5h du matin. Ça s'est passé dans le calme, c'est ce que nous dira tout à l'heure notre confrère de la première Guadeloupe, Alexandre Houda.
À tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, et d'ici là, on va faire le point sur l'actualité internationale tout de suite. Avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour.
Pas de répit à Gaza, où la guerre est entrée dans son 200e jour.
En effet, on est très loin d'une trêve. Le nord de la bande de Gaza a encore été la cible la nuit dernière de violents bombardements parmi les plus intenses de ces dernières semaines, selon des habitants. On a aussi appris aujourd'hui que plus de 200 corps avaient été exhumés à Gaza dans l'hôpital Nasser. La défense civile palestinienne affirme qu'un charnier a été découvert après le retrait de l'armée israélienne au début de ce mois. Muriel Paradon, bonjour. Que sait-on à ce stade?
Alors, depuis samedi, la défense civile dit avoir exhumé plus de 200 corps, parmi lesquels des personnes âgées, des femmes et des enfants. Et elle s'attend à en découvrir d'autres. Des centaines de personnes seraient portées disparues. Ces corps ont été trouvés dans l'enceinte de l'hôpital Al-Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Ils sont pour beaucoup en état de décomposition et donc difficilement identifiables. Alors on ne sait pas s'ils ont été enterrés par leurs proches avant l'incursion de l'armée israélienne, puisque les hôpitaux abritent souvent des zones mortuaires, ou si ces personnes sont mortes durant le siège de l'hôpital. Mais selon CNN et Al Jazeera, qui citent des membres de la défense civile, des corps ont été retrouvés les mains ou les pieds liés, faisant penser à des exécutions. Des informations difficilement vérifiables. L'armée israélienne ne commente pas pour l'instant. De son côté, le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU se dit horrifié et réclame une enquête indépendante.
Merci Muriel pour ces précisions. C'était Muriel Paradon. Les expulsions de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda vont pouvoir commencer d'ici à 10 à 12 semaines, comme indiqué par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. L'approbation du Parlement britannique est intervenue dans la nuit à l'issue d'une bataille entre la Chambre haute réticente et la Chambre basse favorable, elle, à ces expulsions. Le texte est couplé à un nouveau traité entre Londres et Kigali. Il prévoit le versement de sommes substantielles au Rwanda en échange de l'accueil des migrants. Les réactions internationales se sont multipliées pour appeler Londres à renoncer à ce dispositif très décrié. Réaction de l'ONU en particulier, déjà très critique sur ce projet. L'ONU a demandé à Londres de reconsidérer son plan. Comme pour illustrer cette question migratoire au Royaume-Uni, le naufrage très tôt ce matin d'une embarcation a fait au moins 5 morts, dont une enfant, lors d'une tentative de traversée de la Manche au niveau d'une plage du Pas-de-Calais en France. Selon la préfecture, l'accident est survenu après un mouvement de foule en mer. Il y avait à bord plus de 110 personnes.
Retour maintenant sur les résultats du référendum de dimanche dernier en Équateur.
Oui, s'ils ont rejeté les propositions économiques du président Noboa, les Équatoriens ont largement plébiscité dimanche sa croisade contre la délinquance et le narcotrafic. Le gouvernement doit maintenant transmettre au Parlement son projet de modification de la Constitution et du Code pénal. Dans ce cadre, Éric Samson, l'arrestation d'un criminel, l'un des plus recherchés du pays, est arrivé à point nommé pour le gouvernement.
Fabricio Colón Pico, alias le capitaine Pico, est l'un des principaux leaders de la bande des Lobos, les loups, l'une des plus puissantes et violentes du pays. Il s'était évadé en début d'année de la prison de Riobamba pendant les troubles qui avaient suivi la déclaration de l'état d'urgence. Sa famille avait annoncé sa mort, mais après des mois d'enquête, Fabricio Colón a été retrouvé dans une hacienda de cacao de la petite ville de Puerto Quito, au nord-ouest de la capitale. Malgré la présence de nombreuses vigies, la police a réussi à encercler l'hacienda lundi à 3h du matin avant de donner l'assaut. Après une fusillade, Fabricio Colón a été arrêté avec ses complices, dont sa sœur, avec des armes, de l'argent et 7 téléphones portables. La ministre de l'Intérieur, Monica Palencia, a laissé entendre que le leader des Lobos avait été dénoncé par le biais d'un appel au 131, un numéro spécial mis en place par les autorités pour recevoir des informations en échange de récompenses. Ayant changé son apparence et teint ses cheveux en blond, le capitaine Pico était l'un des hommes les plus recherchés du pays. Il est accusé d'assassinat et d'enlèvement du fils d'un rival et d'avoir menacé de mort Diana Salazar, qui dirige le parquet équatorien. Éric Sanson, Quito, RFI.
Nouveau rebondissement en Bolivie autour du projet d'exploitation du lithium.
Oui, l'entreprise d'État chargée d'exploiter le précieux métal a décidé de porter plainte contre plusieurs anciens fonctionnaires. Il lui aurait fait perdre des dizaines de millions de dollars. Explication à la passe de notre correspondant Nils Sabin.
Après la fête, c'est le temps des enquêtes. En décembre dernier, le gouvernement bolivien avait inauguré en grande pompe la première usine de carbonate de lithium du pays, une avancée présentée comme majeure dans l'industrialisation du secteur. Pourtant, aujourd'hui, le tableau semble moins flatteur. La semaine dernière, l'entreprise publique qui exploite le lithium du pays a porté plainte contre 11 ex-fonctionnaires, et hier, un ancien ministre des Mines a été arrêté dans une enquête en lien avec le lithium. La procédure concerne la construction de 18 piscines d'évaporation qui servent à récupérer le lithium dans le désert de Seldouyuni. Lors de leur construction, certaines normes de durabilité n'ont pas été respectées. Résultat, ces piscines sont aujourd'hui hors service. Une erreur à 60 millions de dollars selon Carla Calderon, la directrice de l'entreprise publique. Avec ces piscines hors service, c'est aussi l'usine inaugurée en décembre qui est impactée. En effet, sans le lithium récupéré par évaporation, l'usine n'a pas de matière première et elle ne fonctionne actuellement qu'à 30% de ses capacités. Une très mauvaise nouvelle, alors que le gouvernement bolivien compte en partie sur les exportations de lithium pour redresser les comptes publics. Nils Sabin, La Passe, RFI.
Confrontée à des pluies diluviennes, la Chine a maintenant levé l'alerte rouge dans une partie du sud du pays. Les intempéries avaient entraîné l'évacuation de plus de 100 000 habitants dans la province chinoise la plus peuplée, celle du Guangdong. Elle comprend la métropole de Shenzhen et ses 17 700 000 habitants.
Une question maintenant, quel est l'impact réel de la voiture électrique sur l'environnement?
On sait qu'elle est moins polluante que les véhicules à moteur thermique, mais y a-t-il une énorme différence en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Voyons cela avec vous, Margot Ratézic, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes penchée, Margot, sur les conclusions du dernier rapport sur le sujet de l'Agence internationale de l'énergie.
Oui, et le rapport est sans appel, passer à l'électrique permettrait de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Les ambitions mondiales d'électrification permettrait ainsi d'éviter 2 gigatonnes d'équivalent CO2 d'ici 2035. Ces estimations se basent sur la taille du parc automobile actuel. Et pour vous donner un repère, l'année dernière, les émissions mondiales s'élevaient à presque 40 gigatonnes de CO2. Quand on parle de gigatonnes, on fait référence à des milliards de tonnes de CO2. Alors, il faut bien garder en tête qu'une voiture électrique est loin d'être zéro carbone. Ces voitures sont même plus polluantes à produire que l'équivalent thermique. Mais ces émissions sont largement compensées à l'usage, car lorsqu'elles roulent, contrairement à un moteur à essence, l'électrique n'émet pas de gaz à effet de serre. Cela représente une économie nette de plus d'1,5 milliard de gigatonnes d'équivalent CO2, et ça, c'est largement vertueux pour l'environnement.
Eh bien, vous nous avez tous convaincus, Margot. On va passer aux véhicules électriques, n'est-ce pas, Anna?
Absolument. Enfin, le mieux, ce serait quand même le vélo pour
pouvoir... Ah, encore mieux.
Encore moins. Merci, Gilles Moreau.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction Haïti donc, pour parler de la situation du pays sécuritaire et politique. Nous sommes en direct avec notre confrère Godson Pierre, comme tous les mardis. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
Vous êtes le directeur de l'agence Alter Press, où l'on peut lire en une cette information plutôt étonnante. Des pasteurs kényans et l'épouse du président William Ruto ont échangé avec le chef de gang Jimmy Chérizier.
En effet, étrange, une délégation religieuse kényane s'est rendue aux États-Unis pour rencontrer des personnalités responsables américains et haïtiens. Le président kényan William Ruto aurait chargé la délégation d'effectuer des discussions qui pourraient permettre de renseigner les forces kényanes sur la situation en Haïti. Et cette délégation religieuse aurait également eu des discussions via Zoom avec Jimmy Chérizier Barbecue. Il s'agirait d'augmenter les chances de succès de la mission de sécurité kényane en cas d'éventuel déploiement en Haïti.
Une mission que l'on attend toujours alors que les violences sont quotidiennes. Et on peut lire sur Alter Press, Godson, que les hôpitaux n'arrivent pas à prendre en charge les blessés comme ils le souhaiteraient.
Eh bien, certains établissements de santé dans les zones les plus touchées travaillent à flux tendu en raison de l'augmentation du nombre de patients. Plusieurs autres ont été contraints de fermer leurs portes en raison de l'insécurité. C'est ce que note le Comité international de la Croix-Rouge. Il existe une grave pénurie de fournitures médicales, notamment de médicaments, d'équipements essentiels, de lits d'hôpitaux et de produits sanguins. Et actuellement, l'unique hôpital public qui fonctionne à Port-au-Prince, c'est l'hôpital universitaire La Paix, situé dans la zone périphérique de Delma, où les activités de gangs s'intensifient davantage ces jours-ci.
Et ils maintiennent la pression aussi à d'autres endroits de la capitale et de ses environs. Les gangs bloquent complètement le terminal pétrolier de Vareux et le terminal portuaire Godson.
Et ce n'est certainement pas comme ils l'ont fait en 2021 et 2022, mais il est très difficile d'accéder au terminal car plusieurs routes menant à Vareux sont bloquées. Les camions de transport de carburant ont été utilisés pour cette opération de blocage des voies d'accès, ce qui fait que de temps en temps, il y a de la pression sur la distribution du carburant à la capitale.
Et puis, on a aussi entendu de nouveau des rafales, des tirs nourris autour du Champ de Mars hier. C'est là que doit s'installer en principe le Conseil présidentiel de transition. D'ailleurs, Godson, on devrait connaître une date dans la journée.
Même si on s'attend à ce qu'une date soit annoncée, mais l'incertitude prime encore à cause de cette situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader. Des informations circulent concernant des étapes à franchir vers la passation des pouvoirs. Un protocole a été élaboré et des commissions constituées, mais c'est encore l'attente.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On peut vous lire sur le site alterpress.org. Une installation encore incertaine du Conseil présidentiel de transition, une situation sécuritaire toujours très instable. La situation d'Haïti était au cœur d'une nouvelle réunion hier du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'ambassadeur d'Haïti à l'ONU a saisi l'occasion pour appeler au respect de l'embargo sur les armes.
Au regard de l'augmentation des activités violentes des gangs dans le pays, il est permis de tirer la conclusion que ces gangs continuent à s'approvisionner facilement en armes et munitions illégalement. Nous tirons donc la sonnette d'alarme sur la nécessité pour la communauté internationale de pousser les pays à redoubler d'efforts en vue de faire respecter l'embargo sur les armes décrété par la résolution 2700 du Conseil de sécurité.
L'ambassadeur d'Haïti à l'ONU, lors de cette réunion d'hier aux Nations Unies, l'UNICEF a également fait part de son inquiétude. Écoutez sa directrice exécutive, Catherine Russell.
La situation en Haïti est catastrophique et la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver. 5,5 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants, soit 2 enfants sur 3 dans le pays, ont besoin d'une aide humanitaire. Chaque jour, des enfants sont blessés ou tués. Certains sont recrutés ou rejoignent des groupes armés par pur désespoir. Des données récentes de l'UNICEF indiquent que 30 à 50% des groupes armés en Haïti comptent actuellement des enfants dans leur rang. Les femmes et les jeunes filles continue d'être la cible de violences sexuelles et sexistes d'une extrême gravité. L'année dernière, des milliers de cas de violences sexuelles ont été signalés, dont beaucoup ont été perpétrés contre des enfants.
De nouveaux appels, mais aucune avancée concrète, Marine de la Moissonnière. D'ailleurs, la presse critique une énième réunion inutile de l'ONU sur Haïti.
Oui, c'est le titre de l'éditorial de Franz Duval, éditorial qu'il signe dans le Nouvelliste et dans lequel il fustige une réunion d'une inefficacité désolante quand on connaît le nombre de morts et les destructions qui s'accumulent en Haïti. Cela fait des années que les Nations Unies tiennent réunion sur Haïti. Aucune des paroles n'est suivie des faits. Aucune décision n'a de suite concrète à chaque réunion. Le principal constat est que la situation s'est aggravée, déplore le journaliste. Combien de fois le secrétaire général de l'ONU et les responsables d'institutions de la sphère onusienne ont appelé à l'aide pour Haïti ces dernières années? Qu'est-ce que cela a changé? Rien pour le moment. Il n'y a pas de fonds pour financer l'aide humanitaire, pas d'argent pour doter la mission multinationale, poursuit Franz Duval, qui s'emporte contre la communauté internationale qui a soutenu à bout de bras Ariel Henry l'immobile pendant des années. Il dénonce ses amis qui nous veulent du bien en nous maintenant la tête sous l'eau.
RFI, The World's Voices. À la une de la presse des États-Unis, il y a, Marine, les tensions qui secouent plusieurs campus d'universités prestigieuses. On en parlait il y a une heure avec notre invité. Columbia, Yale, NYU. Depuis plusieurs jours, des manifestations pro-palestiniennes y sont organisées. Certains, notamment Joe Biden, mais aussi des républicains, dénoncent des rassemblements antisémites. Mais la réalité est plus nuancée, c'est ce que nous explique le New York Times qui a passé la première soirée de Pessah, la Pâque juive, hier avec des étudiants.
Oui, et une photo frappe dans cet article, celle de la kippa portée par un étudiant. Une kippa en forme de tranche de pastèque, ce fruit aux couleurs du drapeau palestinien, devenu depuis le 7 octobre un symbole de soutien avec la bande de Gaza. Parmi les manifestants, il y a des juifs, explique le New York Times. Et hier soir, au milieu des campements improvisés sur certains campus, ils ont fêté le début de la Pâque juive. Ainsi à Columbia, rapporte le quotidien, alors que la nuit tombait, une centaine d'étudiants et de professeurs se sont rassemblés en cercle autour d'une nappe bleue couverte de boîtes de pain azim et de nourriture qu'ils avaient préparée dans une cuisine cachère. Certains étudiants arboraient des keffiyeh, le foulard palestinien traditionnel, tandis que d'autres portaient des kippas. Tous ensemble, ils ont prié en hébreu dans le plus pur respect de la tradition, raconte encore le New York Times. Mais ils ont également parlé des souffrances des Palestiniens, appelés à la libération de la Palestine. « Ce soir, nous sommes solidaires du peuple palestinien, non pas en dépit de notre judaïsme, mais à cause de lui », a déclaré Myriam Levine, une étudiante qui a aidé à organiser une cérémonie semblable, cette fois-ci à Yale.
13h15 en temps universel. Un nouveau coup dur pour les défenseurs de l'environnement au Pérou. Un nouvel assassinat. Victorio Darikebe était garde forestier en Amazonie péruvienne. Défenseurs autochtones mobilisés contre l'exploitation minière, contre la coupe de bois ou encore contre le trafic de drogue. Et ce crime, Lucille Gimbert, vient montrer une fois de plus à quel point le Pérou est dangereux pour les défenseurs de l'environnement et des territoires indigènes.
Quand il décroche le téléphone, Eddie Darikebe s'apprête à accompagner la dépouille de son oncle jusqu'à leur communauté en Amazonie pour l'y enterrer. Il raconte, ému, la mort de ce garde forestier. Victorio Darikebe était sur une moto avec son fils de 17 ans quand plusieurs hommes lui ont tiré dessus. Pour Eddie, pas de doute, le meurtre de son oncle est lié à son travail de protection de la forêt dans la réserve d'Amaracaeri.
Il se sentait suivi. L'année dernière, des mineurs s'étaient approchés de la réserve et y avaient fait entrer des engins. Mon oncle fait partie de ceux qui sont allés défendre le territoire. Il ne s'est pas laissé corrompre. Il a informé son chef et la mine a été interdite. La police est venue et a détruit leurs engins.
L'enquête devra éclaircir les causes de cet assassinat. Mais jusqu'à maintenant, la justice est beaucoup trop lente, dénonce Miguel Guimaraes de l'association interethnique de la forêt péruvienne.
34 leaders autochtones déjà ont été assassinés depuis 2014. Nous qui défendons les droits des peuples d'Amazonie, nous sommes menacés, harcelés. Mais l'État péruvien ne s'intéresse pas aussi. Quand un frère est tué, on en parle dans les médias et ça en reste là. 10 ans, 15 ans passent sans que jamais justice ne soit rendue, alors même que l'on connaît les coupables.
Et il rappelle, en protégeant l'Amazonie, les leaders autochtones nous protègent tous des conséquences d'un climat qui, sans eux, se réchaufferait encore plus.
Lucille Gimbert. Aucune amélioration en vue en Équateur. Il va y avoir d'autres coupures de courant dans les jours à venir. Deux raisons. Le manque d'investissement dans l'énergie depuis longtemps et aussi la sécheresse très grave qui frappe toute la région. Ce phénomène touche particulièrement aussi la Colombie voisine où il a enfin plu un peu ces derniers jours, mais pas assez pour remplir les réserves hydriques. Alors les mesures de rationnement se poursuivent comme tous les jours depuis deux semaines. Marine Lebeg a pu joindre des habitants de Bogota qui tentent de s'adapter. Écoutez.
Paola Rodriguez habite dans le nord de Bogota. Elle s'apprête à vivre ce mardi son deuxième jour de rationnement d'eau. Pendant 24 heures, pas une goutte ne va sortir des robinets de son quartier. Elle va devoir s'organiser, comme lors de la première privation d'eau il y a 10 jours.
Tout le monde chez moi s'est levé tôt. On a pris une douche rapide, rempli quelques seaux d'eau pour boire dans la journée et tirer la chasse d'eau. Mais pas trop, parce que l'idée c'est de ne pas trop consommer.
Pas trop consommer, du moins l'eau de son quartier.
Ce jour-là, nous sommes allés manger dehors pour ne pas salir la vaisselle. Puis on a passé la journée dans une autre zone où il y avait de l'eau.
Car en effet, le rationnement de l'eau s'opère par zone à Bogota. Il y en a 9 dans la ville et chaque jour, une zone différente est privée d'eau. Cette mesure, la mairie l'a instaurée pour lutter contre l'assèchement de la principale réserve d'eau de la capitale, actuellement remplie qu'au quart de son niveau habituel. Donc, mais rien n'empêche d'aller voir ailleurs ou d'anticiper, comme l'explique Luis Guillermo Benito. Lui avait de l'eau au robinet. Il vit dans une localité du sud de Bogota et dans son lotissement privé, où les résidents payent l'équivalent de $70 par mois pour tout un tas de services, le rationnement de l'eau, ça n'existe pas.
Quand on apprend dans le lotissement que l'eau va bientôt être coupée, on commence à remplir une citerne prévue pour stocker beaucoup d'eau. Donc ça revient exactement au même. citerne. En remplissant cette citerne, on consomme autant, voire plus. Et ce n'est pas seulement dans les lotissements qu'on fait ça, mais aussi dans les immeubles ou dans les entreprises qui possèdent leurs propres citernes.
Une pratique dénoncée par le maire de Bogota qui brandit la menace financière. 180 dollars d'amende pour ceux qui ne respectent pas le rationnement et une hausse des factures pour les ménages qui consomment trop d'eau. Des réponses de plus en plus musclées, mais loin d'être suffisantes pour Paola Rodriguez.
Même si c'est difficile, je trouve que ce rationnement arrive trop tard. Cette mesure n'est pas suffisante. Il faudrait en faire plus. Par exemple, instaurer le rationnement une fois par semaine contre une fois tous les 10 jours en ce moment. Ce serait plus efficace. Ça impliquerait un sacrifice plus important pour les habitants de Bogota, mais la situation est alarmante.
Pour l'instant, la consommation d'eau par seconde et par habitant est passée de 18 à 16 mètres cubes. Une amélioration, mais on n'est pas encore à l'objectif de 15 mètres cubes fixé par la mairie pour sauver les réserves. Et même si leur niveau remonte légèrement avec les pluies du week-end, les experts voient déjà le rationnement durer plusieurs mois. Les habitants de Bogota placent désormais leurs espoirs dans un autre phénomène climatique. D'ici au mois de juillet, El Niño devrait laisser sa place à la Niña, qui provoque généralement de nombreuses précipitations dans le pays.
Dossier signé Marine Lebègue. Autre conséquence du réchauffement climatique et de la sécheresse au Canada cette fois. Plusieurs feux de forêt se sont déclenchés ces derniers jours, c'est particulièrement tôt dans la saison. L'ouest du pays est touché. Dans la province de Colombie-Britannique, un incendie d'origine humaine a détruit déjà 1600 hectares de végétation. Et ce matin, il est toujours hors de contrôle. Il est très très difficile de venir à bout de ces incendies. D'ailleurs, certains d'entre eux ont démarré l'année dernière et n'avaient jamais été complètement éteints.
RFI, la radio del mundo.
Journée de protestation ce mardi en Argentine. Manifestation pour défendre l'université et l'éducation publique. Ça devrait être l'une des plus importantes depuis l'élection de Javier Milei, le président argentin qui, depuis décembre dernier, soumet le pays à un choc d'austérité drastique qui porte ses fruits, selon lui. Il l'a affirmé hier soir à la télévision argentine. Mais la presse, elle, est sceptique, Marine de la Moissonnière.
Oui, Javier Milei a annoncé que le pays avait enregistré son premier excédent public trimestriel depuis 2008. Un exploit historique, selon lui. Un mensonge, selon Paris Nadossé. Pour le quotidien de gauche, ce résultat s'explique uniquement parce que l'État n'a pas honoré certains de ses engagements. Il n'a ainsi pas remboursé l'argent qu'il doit aux entreprises du secteur énergétique, détaille Paris Nadossé. La Nation, quotidien de droite, salue, lui, les bons résultats annoncés par le président et notamment la baisse de l'inflation. Mais le journal émet des doutes quant à la viabilité à long terme de ces coupes drastiques dans les dépenses publiques. Tout couper, puis s'asseoir sur la caisse, cela va devenir insoutenable pour le fonctionnement de l'État, écrit La Nation. Pourtant, pour l'instant, Javier Milei reste arc-bouté sur sa position. L'État ne mettra pas la main au porte-monnaie. C'est fini, a-t-il dit hier. La solution devra venir du secteur privé et du crédit financé par les économies, affirme le président argentin.
Marine de la Moissonnière pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Anne.
En Guadeloupe, le couvre-feu est entré en vigueur hier soir dans les rues de Pointe-à-Pitre.
Oui, les moins de 18 ans non accompagnés par un adulte ont été priés de rester chez eux entre 21h et 5h du matin. Hier soir, dans les rues de la sous-préfecture et dans deux quartiers de la commune des Abîmes, les forces de l'ordre ont privilégié la discussion plutôt que la sanction. En tout cas, pour commencer, Alexandre Houda.
Effet d'annonce ou simple début de semaine timide, mais dans les rues de Pointe-à-Pitre hier soir, le calme régnait déjà dès la tombée de la nuit. Il est un peu plus de 20h30 lorsqu'une cinquantaine de policiers et gendarmes entreprennent des patrouilles dans les zones concernées, avec la volonté affichée de faire preuve de pédagogie plutôt que de répression. Les forces de l'ordre veulent avant tout établir un dialogue avec la population, leur rappeler les contours de ce couvre-feu et qu'en cas de non-respect, les dépositaires de l'autorité parentale s'exposent à une amende de 750 euros. Et alors que quelques mineurs ont été contrôlés durant le début de soirée notamment, certains ont été rappelés à l'ordre et redirigés vers leur domicile. D'autres ont vu leurs parents recevoir un coup de fil de la police afin de vérifier la raison de leur présence sur la voie publique à cette heure-ci. Et si les équipes ont été renforcées hier soir, dans les prochains jours, ce sont les effectifs de nuit habituels qui prendront le relais et se chargeront du respect de ce couvre-feu avec notamment la brigade anticriminalité qui a l'habitude de patrouiller de nuit et qui aura assurément fort à faire durant les 30 prochains jours.
Un tout autre sujet. Elle est venue du Sahara. Elle a traversé l'océan Atlantique pour s'abattre sur la Martinique. La brume de sable a été particulièrement intense hier sur l'île des Antilles. Écoutez ce reportage de Christine Cupit au Robert, l'une des communes les plus impactées.
Milieu de matinée, les agents municipaux du Robert, chargés de l'entretien des espaces verts, sont en mission depuis plusieurs heures déjà. Aujourd'hui, ils s'attaquent aux ronds-points qui mènent au bourg. Le soleil est déjà très haut dans le ciel gris, envahi par la brume de sable, ce qui ne facilite vraiment pas la tâche des agents municipaux.
On respire pas bien, on sent notre gorge irritée.
Vous avez mis plus de protection au niveau de la tenue ou pas ?
Ben non, puisque on a des protections toute l'année. Ben c'est ces protections-là qu'on a. Hein. C'est un casque. Et moi, j'utilise un t-shirt pour boucher mon nez. Non seulement il y a la poussière, mais il y a la pollution.
C'est assez dur parce qu'on le ressent. Et déjà qu'on est déjà exposé dans la poussière, on a une double peine. Hein. La poussière, plus la brume de sable. Pas facile pour nous.
La ville du Robert subit non seulement la brume de sable, mais également le retour des sargasses sur son littoral. Cela ne fait qu'aggraver la qualité de l'air déjà très mauvaise.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci Benoît Ferrand. On vous retrouve donc demain. Merci à tous d'être avec nous. De la musique avant de se quitter. Ah. Voici le groupe anglais original et assez inclassable Get Down Services et leur morceau Crisps. Make sure you wash it. I don't know who wipes is, but I never ask him. I'm the kind of guy who goes on second sitting, whip off the bell. I sit down, eat my dinner, don't complain about it. Only eat sugar on the weekends. Where'd you get your wife? Just Facebook market is out of control. I'm in control. I got Get Down Services pour nous accompagner jusqu'à la fin de cette émission. RFI Midi se termine. On se retrouve demain à partir de 11h, temps universel. Merci à tous d'avoir été avec nous et merci à Vincent Bitot à la réalisation. Passez une très bonne journée sur RFI. Tout de suite, dans quelques secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou.
Can I have some bits? I've got chocky in my pocket. I've got bits.
RFI Midi.
Portrait libre sur RFI.fr.
Depuis près de 7 ans, Élise est visiteuse de prison. Un engagement peu banal pour une jeune femme de 34 ans qui se rend presque chaque samedi à la maison d'arrêt de Nanterre, en banlieue parisienne, pour apporter aux détenus, l'espace d'un moment, une fenêtre sur l'extérieur. Élise, visiteuse de prison à l'écoute des détenus, un portrait libre à découvrir sur RFI.fr et l'application de RFI.
RFI, la sélection du mois.
MC Solar.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté.
JCB.
J'ai pas besoin de faux name, mais du crédit tous les jours, ça pomme. J'avance sans reculer, tu me traites comme un bébé sans te mentir, chérie, ça pomme. Ne sois pas étonné que je prenne de l'avance, car tes jeux t'aiment, m'ont laissé des pannes.
RFI Musique.